Alors, comme Marie accueillait la volonté de Dieu, le texte le plus parlant pour ça, c'est certainement celui de l'Annonciation. Alors, je m'y référerai à diverses reprises. Mais en fait, dans beaucoup de passages de l'Évangile, on voit que Marie accueille la volonté de Dieu. Elle ne dit pas forcément quelque chose, mais quelquefois c'est Jésus qui dit, ben, par exemple, ça c'est au chapitre 12 de saint Matthieu. Jésus qui répond, « Qui est ma mère, qui sont mes frères ?» Et tendant la main vers ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères, car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux est pour... Et celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Donc, voilà, les pères de l'Église disent, mais ça, c'est un beau compliment pour Marie. Voilà, et puis on voit que Marie, elle est toute obéissante. Au pied de la croix, Jésus lui confie Jean. C'était quand même mieux Jésus que saint Jean. Mais bon, elle accueille saint Jean et elle nous accueille, même si... on n'est pas vraiment à la hauteur de Jésus, mais voilà. Donc, on voit que Marie accueille la volonté de Dieu. Voilà, on ne la voit pas beaucoup, beaucoup parler quand même. Hein, faut dire, oh ben non. Voilà. Alors, je vais faire trois parties. Ça ne vous surprendra peut-être pas. la première, ça sera sans doute la plus longue. C'est plutôt l'ouverture à la volonté de Dieu, même avant qu'il nous demande quelque chose. Parce que vous savez bien qu'il y a des gens, vous n'avez aucune difficulté pour leur demander quelque chose. Vous savez que ça se passera bien. Il y a des personnes, vous y regardez à deux fois avant de demander quelque chose. Enfin, je ne sais pas si c'est votre expérience, mais... Et vis-à-vis de Dieu, c'est la même chose. Avant de nous demander... Il y a des choses... Alors, Dieu, peut-être... Ce n'est pas qu'il ait peur de nous, le bon Dieu, mais il se dit... Je ne sais pas ce qu'il se dit. Mais en même temps, nous, on n'entend peut-être pas quand il nous demande quelque chose. Donc, ça sera la partie sans doute la plus longue, parce que c'est... Et là, on voit aussi la différence de Marie avec nous. Elle est immaculée, donc il n'y avait aucun problème. Elle était prête à écouter. Et puis après, il y aura une deuxième partie, c'est plus sur le discernement. On entend, mais est-ce que ça vient bien de Dieu? De comprendre, parce qu'il ne nous parle pas forcément en direct, etc. Donc, on a besoin de comprendre. Est-ce qu'on le voit avec l'Annonciation? Marie, elle pose des questions, elle a raison. Donc, on a besoin de comprendre qu'est-ce que Dieu attend de nous, comment réaliser sa volonté aussi. Et voilà. Ça sera la deuxième partie, plus sur le discernement. Hein. La première partie, c'est la disponibilité, l'ouverture, l'écoute. La deuxième partie sur le discernement. Et la troisième partie, ça sera de passer à l'acte. Il ne suffit pas de discerner. Après, il faut le concrétiser. Et on voit que Marie concrétise aussi. Elle ne reste pas dans les mots, mais elle passe à l'acte. Voilà, c'est clair mon plan en trois points. Voilà, alors d'abord, l'ouverture à la volonté de Dieu, la réceptivité, l'écoute. Une grande difficulté pour faire la volonté de Dieu, c'est que quelquefois on a peur de cette volonté de Dieu. On se demande, mais qu'est-ce qu'il va nous demander? Je me rappelle, c'est une jeune femme, elle voulait surtout pas être religieuse. Et du coup, elle n'était pas prête à discerner. Le jour où elle a dit, d'accord, je suis prêt à ce que tu me dises ce que tu veux. Ce jour-là, elle a compris qu'elle était faite pour être mariée, pour se marier. Mais quelque part, elle bloquait d'entrée de jeu. Donc le discernement, il est faussé si on ferme dès l'entrée certaines portes parce qu'on ne veut surtout pas. Dieu, il n'est pas vraiment libre avec nous. Donc quelque part, c'est l'ouverture, c'est... clairement, il y a des choses qu'on préfère à d'autres, hein. Et ça, c'est pas défendu. Mais d'avoir cette ouverture, et ça vient dès le premier péché, hein, cette méfiance, cette peur à l'égard de Dieu. On voit le premier fruit du péché, c'est la peur. Après le péché, ils vont se cacher, tout ça. Ils ont découvert qu'ils étaient nus. Avant, ils s'en rendaient pas compte. En tout cas, ça posait pas de problème. Et puis, mais pourquoi tu t'es caché? J'ai eu peur. Et je me suis caché. Et cette peur, elle nous poursuit quand même. Parce que souvent, on se demande, qu'est-ce qu'il va me demander? Et du coup, on n'est pas vraiment ouvert. On veut bien certaines choses, mais on n'est pas vraiment ouvert à ce que Dieu pourra nous demander. Il y a une certaine méfiance à l'égard de Dieu. Benoît XVI le disait dans son livre sur Jésus de Nazareth. Au début, justement, dans l'idée de Dieu, il veut une synergie, une coopération avec l'homme. Et puis, mais à partir du péché, bon, cette liberté, l'homme sent sa liberté compromise par la volonté de Dieu. Il voit dans le oui à la volonté de Dieu, non pas la liberté d'être pleinement lui-même, mais une menace pour sa liberté. Et il y oppose alors sa résistance. Et ça, c'est certainement la chose la plus fondamentale au point de départ, c'est de nous réconcilier avec la volonté de Dieu dans le sens où guérir cette peur. Il y a beaucoup de saints qui parlent de mortifier sa volonté propre, ça va un peu dans ce sens-là, c'est de dire, mais non, Dieu ne va pas me demander des... Je n'ai pas à avoir peur de la volonté de Dieu. Et je n'ai pas besoin d'affirmer à tout prix ma volonté. Et ça, je pense que ça peut être un fruit de l'accompagnement spirituel de nous aider à laisser tomber nos appréhensions vis-à-vis de tout ce que Dieu pourra nous demander, pour se détendre en quelque sorte et être disponible. Voilà, parce que Dieu nous aime. Chaque été, je vais assise avec des jeunes, des célibataires, et on aime bien reprendre dans un des premiers topos ce que disait saint François d'Assise. Vous connaissez peut-être un petit peu, mais quand au début, il est tout feu tout flamme, et il part vers Spolète avec des habits de chevalier, etc. Et puis il est arrêté en cours de, il est arrêté, et Dieu lui apparaît. Et puis à ce moment-là. Saint François lui dit, mais que veux-tu que je fasse? Alors ça, c'est une belle question qu'on trouve à diverses reprises. Que veux-tu que je fasse? Cette disponibilité. Tant qu'on n'a pas cette disponibilité, Dieu ne peut pas parler comme il voudrait. C'est l'exemple que je vous ai donné de cette jeune femme qui se bloquait, alors que, ben non, Dieu... Dieu il veut qu'on soit heureux. Si un frère vient ici, qu'un jeune veut rentrer dans la communauté et qu'on le sent malheureux, on lui dira, ben non, il vaut mieux que tu retournes chez toi. T'es pas fait pour être malheureux. Alors, il peut y avoir des épreuves, ça veut pas dire que tout soit toujours facile tous les jours. Voilà, bien sûr, dans toute vie, que ce soit la vie consacrée, la vie... conjugal, tout ça, il y a des moments difficiles, c'est normal. Mais si au point de départ, on est malheureux, ben, mieux vaut arrêter tout de suite, quoi. Parce que Dieu nous veut heureux. Mais être heureux, ça ne veut pas dire non plus que pas avoir des difficultés. On peut être heureux aussi dans les difficultés. Ça ne s'oppose pas, ce n'est pas antinomique. Et saint François de Sales, dont je vous ai parlé l'an dernier, donc la première chose que voulait faire saint François de Sales, c'est d'aider les gens, ceux qui l'accompagnaient, à contempler l'amour de Dieu pour eux. Voilà, pour faire tomber cette appréhension, mais cette méfiance à l'égard de Dieu. Et on en parlera tout du long, quelque part, le fil rouge, c'est un peu cette confiance à l'égard de Dieu. Si on a confiance en Dieu, ce n'est pas un problème de faire sa volonté. Le problème, c'est que on se méfie un peu, on a un peu... Voilà. Alors, voilà ce que disait saint François de Sales. Considérez l'amour éternel que Dieu vous a porté. Car déjà avant que notre Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'homme, souffrit en croix pour vous, sa divine majesté, vous projetez en sa souveraine bonté et vous aimez extrêmement. Mais quand commença-t-il à vous aimer ? Il commença quand il commença à être Dieu. Et quand commença-t-il à être Dieu ? Jamais, car il l'a toujours été, sans commencement et sans fin, et aussi il vous a toujours aimé dès l'éternité. C'est pourquoi il vous préparait les grâces et les faveurs qu'il vous a faites. Il y a un chant qui comprend quelquefois, je fais un petit flash publicitaire, dans notre groupe de prière, un Abba Père, avant que le monde, etc. Voilà. Mais c'est vrai, et je pense qu'on a besoin de se replonger dans l'amour de Dieu. Ça, c'est vraiment, pour s'ouvrir à sa volonté, il faut d'abord s'ouvrir à Dieu et à son amour. Alors, je verrai un deuxième pas, c'est de désirer faire la volonté de Dieu. La première chose, c'est peut-être de laisser tomber autant qu'on le peut. Ça tombera jamais tout à fait parce qu'on est marqué par le péché. Cette peur peut beaucoup régresser, on pourrait dire. Mais après, un pas supplémentaire, c'est désirer, avoir vraiment ce désir de faire la volonté de Dieu. Et à sa manière, à lui. L'an dernier, je vous ai pris quelques textes de saint François de Sales à ce sujet-là. Je vous en recite. D'abord, c'est Jésus. Hein. Notre premier modèle, c'est Jésus. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je suis descendu du ciel, non pas pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Tout ça, ça vient de saint Jean, mais ça vient de multiples reprises. Et saint Paul nous invite, ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Alors là, du saint François de Sales, que Dieu me mette en quelle sauce qu'il voudra, ce m'est tout un, pourvu que je le serve. Il faut regarder ce que Dieu veut, et le reconnaissant, il faut s'essayer de le faire gaiement ou au moins courageusement. Car en quelle sauce que Dieu nous mette, ce nous doit être tout un. C'est là le blanc de la perfection, hein, comme le centre de la cible, auquel nous devons tous viser, et qui plus s'en approche, c'est celui qui emporte le prix. Ou encore, ça c'est un sermon pour le Vendredi Saint. Le parfait abandon entre les mains du Père Céleste et la parfaite indifférence en ce qui regarde la divine volonté sont la quintessence de la vie spirituelle. Alors donc, désirer non seulement s'ouvrir, mais vraiment le désirer, hein, c'est un peu plus actif déjà de désirer faire cette volonté de Dieu. Et puis, pas seulement désirer, mais aussi demander. Alors là, il y a plein de saints qui ont fait des prières. Il y a déjà le psaume 142. Je vous lis deux versets. Hein, Alors, c'est très intéressant. Verset 8, je vous lis juste les versets 8 à 10. « Fais que j'entende au matin ton amour, car je compte sur toi. Montre-moi le chemin que je dois prendre. Vers toi, j'élève mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, Seigneur, j'ai un abri auprès de toi. Apprends-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Ton souffle est bienfaisant qu'il me guide en un pays de plaine. » Ce qui est intéressant, c'est que avant de lui demander « Montre-moi le chemin que je dois prendre », il lui demande « Fais que j'entende au matin ton amour. » On a besoin de se nourrir de cet amour de Dieu, et puis après de demander. Alors après, il y a plein de saints qui demandent. Je vous cite saint François d'Assise, devant le crucifix de saint Damien, vous connaissez cette prière sans doute. Dieu très haut et glorieux, viens éclairer les ténèbres de mon cœur. Donne-moi une foi droite, une espérance solide et une parfaite charité. Donne-moi de sentir et de connaître, afin que je puisse l'accomplir, ta volonté sainte qui ne saurait m'égarer. Donc, ça c'est au tout début, hein, c'est vers le début de son itinéraire, hein, cette prière de Saint François d'Assise. Et c'est là que Dieu va lui dire, rebâtis mon église. Ou Charles de Foucault, vous connaissez, mon père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie, je suis prêt à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures, je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Voilà. Mais ça peut être bien d'avoir une petite prière pour soutenir, justement, pour le demander, même si il y a des parties en nous qui résistent encore. Pour justement s'ouvrir à la volonté de Dieu, c'est aussi ouvrir son oreille, c'est écouter. Là, il y a eu le synode à Rome au mois d'octobre. Et donc, dans la question du synode, c'est de discerner la volonté de Dieu, mais à un niveau communautaire. Et il y a une place très importante qui est donnée à l'écoute. Alors, je ne sais pas si vous avez lu et relu la conclusion le document final du synode. Eh ben, vous pourrez aller voir le numéro 84, par exemple, c'est ça, hein? Oui, qui montre justement la place de l'écoute aussi. Parce que pour un discernement communautaire, là j'élargis un peu le sujet, mais si chacun a son idée au point de départ et ne veut pas en démordre, c'est mal parti pour discerner quelque chose ensemble. On ne peut discerner que si on écoute les autres. Après, bon, on verra comment on fait. Enfin, je vous lirai le numéro 84, ce qui est intéressant. Après, mais aussi dans notre relation avec Dieu, ben si on écoute que ce qui va dans notre sens, ça ne marche pas. Il y a des gens comme ça, quelquefois, qui aiment bien voir un père spirituel tant qu'il les caresse dans le sens du poil, si je puis dire. Enfin, l'expression, elle n'est peut-être pas. Mais le jour où il est plus tout, il voit les choses un peu différemment, bon, on change de. Il ne me comprend pas. ça peut arriver aussi, hein, qu'ils ne comprennent pas. Mais il faut peut-être se poser aussi des questions. Peut-être que. Voilà. Et du coup, c'est une écoute qui n'est pas sélective. Et c'est pas seulement écouter les autres, c'est on y reviendra un petit peu plus loin, c'est écouter profondément ce qui nous habite, les désirs profonds qui nous habitent, parce que dans notre vie il y a une certaine constance en certaines choses pour découvrir notre vocation, notre mission. C'est important d'écouter en nous ce qui est. Il y a des choses qui font partie de nous et notre voisin n'a pas les mêmes désirs parce qu'il n'a pas la même mission. Et on a une mission unique sur la Terre. Donc voilà, cette place de l'écoute pour s'ouvrir à la volonté de Dieu. Et toujours dans la première partie, mais ce sera la dernière chose que je vous dirai dans la première partie, mais. La volonté de Dieu se manifeste à nous de diverses manières. Alors, je reviens à Saint François de Sales que vous avez bien aimé l'an dernier. Alors, mais peut-être que vous vous souvenez déjà de ce que je vais dire. Bon, j'entends pas un cri unanime. Donc, la volonté signifiée, la volonté de bon plaisir et les saintes inspirations. Ça vous dit quelque chose ? Pas tant que ça, donc je je reviens dessus. C'est la volonté de Dieu se manifeste de diverses manières. Il y a la volonté qu'il appelle signifiée. Après, peu importe le vocabulaire, ce qui est important, c'est la réalité derrière. C'est des choses qui font des vérités de foi, les commandements. Ça, les commandements de Dieu, les commandements de l'Église, là, il y a quelque chose d'objectif. Mais pas seulement, c'est aussi votre devoir d'État. Ainsi, François de Sales est très attentif au devoir d'État. Il dit, mais si tu es marié, il faut peut-être que tu t'occupes un peu de ton mari et de tes enfants. Sinon, si tu étais religieuse, tu pourrais être toute la journée à la chapelle, mais si tu as un mari et des enfants, c'est pas. Voilà. Donc, devoir d'État, ça fait partie de la volonté signifiée. Ça fait partie de. Et donc, il y a des choses qui sont une conséquence, on pourrait dire, de notre vocation, de notre mission. Alors, voilà. Donc, on a embrassé, entre guillemets, une vocation, une mission. Ben voilà, après, il y a des choses qui en découlent. Et c'est la volonté de Dieu d'y être fidèle. Ça fait partie du lot, si je puis dire. Ça, c'est la volonté signifiée. Après, il y a une volonté de bon plaisir. Alors, l'expression, je ne sais pas si elle traduit tout dans notre tête, c'est plutôt des faits, des événements, des choses que nous avons vécues. Peut-être qu'on n'aurait pas choisi d'ailleurs à certains moments. Certaines qu'on a aimées et d'autres qu'on n'a pas du tout aimées. Ben, imaginez, je crois que vous avez lu le texte de Joseph, le patriarche Joseph. Au point de départ, il y a des choses, il aurait préféré ne pas être au fond de la citerne. Mais après, il a relu la volonté de Dieu. Vers la fin du récit, au chapitre 45, ce n'est pas vous qui m'avez amené ici, c'est Dieu qui m'a amené ici. Mais c'était une volonté de bon plaisir, mais il l'a relu comme ça. C'est aussi une manière de relire les choses. On pourrait dire, parce qu'on derrière ça, c'est pas Dieu qui a voulu le mettre dans la citerne, ça, bien sûr, mais Dieu s'est servi de ça, et Dieu, ça s'est rentré dans le plan de Dieu quelque part, même si c'est pas Dieu qui l'a voulu au point de départ. Mais Dieu s'est servi de ça pour le faire mûrir, pour le. Et dans notre vie, il y a des choses, ben, au point de départ, c'était pas prévu. Et en fait, ben, il y a cet événement, de fait arrive cet événement, ben, il faudra que je vive avec cet événement, ça fait partie de mon histoire. Alors je peux le refuser, mais je me fais violence si je le refuse. Et Dieu ne peut pas s'en servir quelque part. Ce qui est très beau dans l'histoire de Joseph, c'est vrai que c'est un très très beau récit, c'est que. On voit qu'il n'est pas dans l'amertume. Hein, il y a quand même diverses péripéties. Et je pense que vous n'avez pas pu lire tout ton itinéraire ce matin, mais il y a quand même beaucoup de péripéties avec la femme de Putiphar et tout ça, donc il repart en prison, etc. Mais on sent que finalement, il rebondit à chaque fois, Joseph. C'est quand même assez impressionnant. Et que, voilà, avec la grâce de Dieu aussi, hein, mais. On voit que, alors qu'il a vécu des choses difficiles, à vrai dire, il n'y est pas pour rien non plus. Quand il faisait le malin devant ses frères, voilà, ma tunique est plus belle que la vôtre. Bon, quelquefois, bon. Et son père aussi, qui, du coup, ça suscite la jalousie de tous ses frères. Donc, voilà, il n'est pas tout blanc non plus, d'une certaine manière. Mais dans notre vie, c'est comme ça. Et la volonté de bon plaisir de Dieu, c'est, ben voilà, il y a eu des événements, je ne peux plus changer l'histoire, on ne fait pas marcher la machine à remonter le temps. Mais voilà, comment Dieu peut s'en servir pour moi aujourd'hui, pour le salut du monde? Alors, ça va vite à dire, c'est plus compliqué à vivre, mais. Alors, François de Sales insiste beaucoup, beaucoup là-dessus. Hein, je pense que l'an dernier, je vous avais cité beaucoup l'invité à accepter les incommodités de l'existence. Et de ce point de vue-là, l'ascèse que proposait François de Sales, ce n'était pas tellement de se flageller ou tout ça. Il n'a jamais voulu ça dans ses communautés. C'est d'accepter les choses désagréables de la vie. Ça, c'était plus sous cet angle-là que François de Sales insistait pour l'ascèse. C'est pas de s'imaginer les cilices et tout ça, c'est pas tellement dans la spiritualité de François de Sales. C'est plutôt de faire bonne figure, enfin d'accueillir de notre mieux ce qui arrive et qu'on aurait préféré que ça n'arrive pas. je suis des choses. Voilà, alors, volonté signifiée, volonté de bon plaisir et les saintes inspirations. Alors ça, c'est une troisième manière dont Dieu nous manifeste sa volonté. François de Sales recommande de se rendre attentif aux inspirations intérieures, c'est-à-dire à tous les attraits, les mouvements, les sentiments de contrition, les lumières, les connaissances que Dieu fait connaître en nous. Laissez-vous mener par l'Esprit, dit saint Paul. Alors, c'est des inspirations. Dieu ne nous oblige pas. Hein, c'est vraiment des inspirations. Si on n'est pas attentif, on continue comme un 35 tonnes notre itinéraire et puis on ne s'en aperçoit pas. Mais justement, c'est ce qui est intéressant dans notre vie. Il nous inspire des choses. Ça part souvent de choses finalement assez anodines. Ce qui me vient à l'esprit, c'est par exemple Guy Gilbert. Une fois, il a accueilli un gars, enfin si mes souvenirs sont bons, mais un gamin de 14 ans chez lui. Mais il n'avait rien de projeté. Et puis petit à petit, les choses ont fait leur chemin. Et puis bon, son itinéraire s'est ouvert avec ça. Mère Teresa, c'est aussi comme ça au point de départ. Elle a d'abord fait attention à une personne. Elle était attentive à ce qu'elle a éprouvé devant les gens des bidonvilles. Et puis, mais elle avait son but, c'était pas de fonder une congrégation religieuse au point de départ, c'est simplement d'être. Et quelquefois, il y a des petites choses comme ça. On n'a aucune idée de la portée que ça peut avoir, mais souvent il y a un petit quelque chose. Ça, c'est une sainte inspiration, on pourrait dire, avec les mots de saint François de Sales. Mais il y en a beaucoup dans notre vie. Alors, plus ou moins importantes, qui changent plus ou moins le cours de notre vie, mais on voit qu'il y a beaucoup de choses, ça part de quelque chose d'insignifiant. Mais si on n'avait pas fait attention, bon, on aurait continué. Et Dieu nous en aurait pas voulu. Hein. Dieu n'est pas rancunier. Hein. Donc, il nous redonne des inspirations d'autres moments. Mais on voit qu'il y a des gens qui sont très sensibles à ça et Dieu peut les conduire. Alors ça, c'est une phrase du curé d'Ars, je crois. Ah non, c'est toujours saint François de Sales. Comme un cheval bien dressé se laisse aisément conduire en toutes circonstances, ainsi l'âme qui aime est si docile entre les mains de Dieu que celui-ci en fait tout ce qu'il veut. Donc soyez des chevaux bien dociles. Voilà, ça c'était cette ouverture à la volonté de Dieu, qu'elle soit signifiée de bon plaisir ou les saintes inspirations. Mais voilà, cette ouverture, voilà, et c'est vraiment le socle à partir duquel on peut accueillir la volonté de Dieu comme Marie. C'est cette ouverture. Et ça se travaille, ça, hein, ça se travaille. Il n'y a pas de secret. Maintenant, le deuxième point que je voulais évoquer, c'est discerner. Parce que, est-ce qu'on a une inspiration ? Est-ce qu'elle vient de Dieu ou est-ce qu'elle ne vient pas de Dieu ? Et comment la mettre en œuvre, cette inspiration ? Parce que quelquefois, c'est notre imagination, tout simplement. Ou ça peut être le démon aussi qui nous inspire certaines fois des choses. Voilà. Donc, il y a besoin de discernement derrière. On voit à l'Annonciation, Marie, elle pose des questions pour comprendre. Aussi, pour comprendre aussi comment répondre à cette invitation. Donc, voilà. Alors, saint Ignace de Loyola, hein, donc ça c'est un des grands maîtres dans le discernement, et distingue des clartés immédiates. Alors, c'est clair comme le jour, donc on y voit, c'est lumineux. D'autres fois, c'est moins. C'est différent, c'est une inclination persistante vers une décision qui procure paix et joie spirituelle. Donc, et puis, une troisième manière, c'est une délibération rationnelle. Bon, je fais mon petit papier pour, contre, et puis je réfléchis, et puis je demande à Dieu de m'éclairer. Mais vous voyez qu'il n'y a pas une forme de discernement, il y a des choses qui sont beaucoup plus claires que d'autres. Ça m'avait amusé quand je suis venu ici. Bon, alors j'ai essayé de discerner comme je pouvais. Et puis, à un moment, on me dit, mais... Et puis, à un moment, bon, c'était clair. Donc, je demande si je peux rentrer dans la communauté. Mais je n'avais pas demandé conseil à un prêtre. Ou... Alors, c'est sans doute pas un exemple à suivre, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était comme ça pour moi. Et puis, quelqu'un me dit, mais il faudrait peut-être que tu prennes un directeur spirituel. Oui, je l'ai fait, hein. Mais de toute façon, c'était clair avant, hein. Donc, alors, je veux dire, ça dépend des choses. Il y a des choses, ben, c'est tellement lumineux. Bon, de toute façon, c'est pas le père spirituel qui va prendre la décision à notre place. Alors après, il peut dire, mais sur les motivations, est-ce que, enfin, il peut nous rater. Bien sûr, il a tout, son rôle est important pour. Pour y voir un peu plus clair, pour approfondir les choses, bien sûr. Hein, je suis pas contre l'accompagnement spirituel. Mais quelquefois, c'est lumineux. Il faut pas se prendre la tête plus qu'il ne faut, quoi. Donc, mais bon, on n'a pas tous les mêmes chemins, on n'est pas tous fait pareil. Et alors, donc le pape François, en bon jésuite, insiste beaucoup sur le discernement. Hein. Il en a parlé à plusieurs reprises, et entre autres, parce qu'il en parle souvent, il a fait toute une série de catéchèses sur le discernement en 2022. Donc n'hésitez pas à les lire, c'est assez concret, comme le pape François ses lettres. Il a aussi dans la lettre sur la santé, Exultate, c'est comment, Gaudete et Exultate. Là aussi, il y a quelques numéros sur le discernement. Donc, c'est quelque chose qui lui tient très à cœur. Donc, le discernement, là, c'est plus un travail de l'intelligence. Alors, c'est aussi un don de Dieu, un don spirituel, le discernement, mais on fait marcher notre intelligence. Éclairé par l'Esprit Saint, mais là, c'est plus... Après, la troisième étape dont je vous parlerai, passer à l'acte, ça, c'est plutôt la volonté. Mais là, on est plutôt au niveau de l'intelligence et de la connaissance, on va dire, de comprendre les choses. Connaître et comprendre les choses. Alors, dans cette partie sur discerner, je pensais à... Il y aurait quatre têtes de chapitre. D'abord, il y a des connaissances un peu d'ordre général. Après, des connaissances plus précises pour un choix précis. Et puis après, des questions, les questions qu'on peut poser. Et puis après, les signes qui viennent confirmer le discernement. Ce sera les quatre éléments que je vous donnerai sur le discernement. La première chose, donc, c'est un certain nombre de choses qui permettent une connaissance, mais plus d'ordre général. C'est comme l'arrière-fond du discernement. Alors, il y avait déjà l'arrière-fond d'accomplir la volonté de Dieu, c'est déjà d'être un peu en confiance avec lui. Sinon, on risque pas de... On se fermera d'entrée de jeu, il ne pourra pas vraiment nous dire ce qu'il veut. Mais là, c'est aussi dans la connaissance, il y a des connaissances vraiment sur le choix précis que je dois faire, mais il y a des choses beaucoup plus larges. Par exemple, la prière. Si on veut discerner ce que Dieu nous demande... C'est un peu compliqué si on ne prie jamais. Ça paraît élémentaire, mais c'est dans la prière aussi qu'on s'ouvre à la volonté de Dieu, qu'on apprend. J'enfonce sans doute des portes ouvertes, mais... Ou connaître la parole de Dieu. Si j'ouvre jamais ma Bible, si j'écoute jamais la parole de Dieu, ben, après, c'est quand même le premier lieu où Dieu nous parle. Hein. La parole de Dieu, l'Écriture sainte... Donc, ça suppose, si je veux vraiment y voir plus clair sur ce que Dieu attend de moi, ben je crois que la Bible, elle ne peut pas rester toujours sur mon étagère. Hein. Il faut que... C'est aussi se connaître soi-même. Et ça, ça prend une vie, toute une vie, se connaître soi-même. Mais c'est parce que ce n'est pas un discernement abstrait que je fais, mais c'est ma réalité telle que je suis. Avec mes talents, mes manques, mes forces, mes faiblesses. Peut-être aussi des choix que j'ai déjà faits. Comment ça s'inscrit dans mon histoire, quelque part? Mais du coup, c'est important de se connaître un petit peu, de voir comment. Parce que quelquefois, ça peut arriver à certaines personnes de reproduire les mêmes erreurs. Mais du coup, il y a besoin de relire un petit peu comment on a vécu les choses pour, si possible, pas retomber dans la même erreur. Voilà. Mais du coup, ça, c'est se connaître soi-même. C'est aussi connaître ses désirs. Quel est le désir le plus profond de ma vie? Parce qu'on a une multitude de désirs, mais il y a souvent un désir qui fédère un certain nombre d'autres désirs. Qu'est-ce qui m'habite vraiment? Parce que la volonté de Dieu, elle passe par mes désirs aussi. Et c'est lui qui m'a mis ses désirs les plus profonds, c'est lui qui les a mis en nous. Hein, oui, là c'est important, la volonté de Dieu, c'est pas quelque chose de plaqué de l'extérieur. Il veut surtout nous faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. C'est pas ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, elle passe aussi par les désirs qu'il a mis en nous. Hein, mais alors nous, on a besoin d'y voir un peu plus clair. Sur les désirs qui sont peut-être tout à fait authentiques et d'autres désirs qui sont un peu ambigus. Hein, parce qu'on a des idées. Vous regardez la publicité, il y a des désirs qui viennent, c'est calculé pour. Hein. Mais est-ce que c'est le désir de Dieu? Ça, c'est pas tout à fait sûr. Mais du coup, on a besoin de faire le tri dans nos désirs et de voir quels sont les désirs qui nous, enfin, qui sont liés à notre être, à notre identité, pour ainsi dire. Je ne sais plus qui disait. C'est peut-être saint Thomas d'Aquin, que dans notre Père, Dieu nous aide à mettre dans cette prière de l'ordre dans nos désirs. Dans quel ordre il faut désirer les choses, hein, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Après seulement, donne-nous notre pain de ce jour, etc. Mais du coup, de mettre de l'ordre dans les désirs, je trouve ça intéressant de. Voilà. Et puis encore un autre élément, c'est assez général, mais je pense que c'est important de le rappeler. Ça fait jamais de mal de le rappeler. Notre vie morale. Si on a une vie de bâton de chaise, ça peut être compliqué de bien discerner la volonté de Dieu. Alors quelquefois, il y a des lumières tout à fait claires qui nous sont données, et heureusement que Dieu n'attend pas qu'on soit parfait pour nous parler, hein, sinon il attendrait longtemps. Hein, mais on voit que il y a un dicton, je ne sais pas si vous connaissez, si tu vis pas comme tu penses, tu finis par penser comme tu vis. Mais ça, c'est assez vrai. C'est pas étanche entre notre manière de vivre et ce qu'on pense, parce que instinctivement, on justifie notre manière d'agir. On n'aime pas se sentir coupable. Et du coup, nos idées, elles évoluent pour s'adapter à notre vie qui n'est pas forcément reluisante. Voilà. Et du coup, ça fausse notre discernement après. Et bien sûr, quand même, notre discernement, il peut être un peu faussé. Mais je pense, alors ça me vient à l'esprit comme ça. Si un enfant, alors je cite une ville comme ça au hasard, hein, de Naples, on lui apprend à voler sa petite enfance et on lui présente comme un bien, ben voilà, c'est sa conscience a intégré ça, donc c'est bien de voler si les gens ont beaucoup de sous en plus. Mais bon, c'est pas exactement. Voilà, donc on a besoin de rectifier aussi notre conscience, d'éduquer notre conscience pour. Voilà. Alors ça, c'est des choses assez générales dans notre vie. Plus notre vie correspondra à ce que Jésus en attend, plus après on a des chances, ça nous facilite de discerner dans des situations précises. Alors, pour discerner dans les situations précises, bon, ça peut être intégrer la demande exactement, qu'est-ce qui nous est demandé. Ça peut être aussi de clarifier nos intentions, nos motivations. Saint Ignace de Loyola insiste de faire les choses pour la gloire de Dieu. Est-ce que c'est pour mon ego, ou est-ce que c'est pour la gloire de Dieu que je fais les choses? Un autre élément pour quand on nous demande quelque chose, est-ce que je suis libre? Est-ce que je dis oui parce que j'ose pas dire non, ou est-ce que... Mais non, voilà, on a besoin de voir un peu le contexte, si vraiment c'est vraiment notre réponse. Alors bien sûr, il y a besoin de... Plus ou moins, on ne va pas prendre conseil pour tous les détails de notre vie, mais pour un certain nombre de choses. Et puis de prendre le temps, simplement pour discerner sur des choses. Il y a des choses, c'est clair et lumineux, et puis on demande conseil, ça nous est confirmé, donc on y va, on coupe pas les cheveux en quatre. Comme Marie, elle n'a pas attendu 3 ans avant de donner sa réponse à l'ange Gabriel. Elle lui a répondu... parce que c'était lumineux pour elle. Mais dans d'autres cas, il ne faut pas forcément se précipiter si on n'y voit pas clair. Il faut... Voilà. Toujours dans le discernement, c'est poser des questions. Bien sûr, il est légitime de poser des questions, et la Sainte Vierge nous montre l'exemple, hein, dans l'Annonciation. Mais comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge ? Même avant, on voit dans sa tête, je ne sais pas si elle fronçait les sourcils, mais Marie se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. Donc, elle se pose des questions, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, c'est légitime parce que on est... Parce que Dieu ne veut pas nous arracher notre consentement. Il veut qu'on soit partie prenante, qu'on comprenne un peu les choses. Dieu ne court-circuite pas notre intelligence. Alors, il peut aller au-delà de notre intelligence, bien sûr. Mais il veut que notre engagement soit libre. Et notre engagement n'est pas libre s'il n'y a pas notre intelligence et notre volonté qui sont impliquées dans cet engagement. Et c'est important pour après aussi. Hein, pour être fidèle à un engagement, si on nous a forcé la main au moment de le prendre, ben après, on aura un peu de mal à être fidèle. Mais en même temps, ce que j'aime en Marie, c'est qu'elle pose des questions, mais elle n'en pose pas des tonnes. Elle pose une question. Alors, on peut en poser plus, nous. Mais quelquefois, on voit des personnes, elles posent plein de questions. On n'a pas répondu à une question quand on vient une autre, et puis c'est un puits sans fond. Mais je pense que ça, c'est pas bon. Alors, il faut poser... Là aussi, il y a une juste mesure. Bien sûr qu'il faut poser des questions, mais on ne se perd pas non plus dans les questions. Alors, je vous cite encore François de Sales, puisque vous l'aimez bien. Quelque part, on a besoin de gagner en simplicité. Encore une fois, c'est bon de se poser des questions, mais c'est bon aussi de s'arrêter de se poser des questions. Alors, voilà ce que dit François de Sales. « Oh, ma fille, je vois vos entortillements dans ces pensées de vanité. Simplifiez votre jugement, ne faites point tant de réflexions et de répliques, mais allez simplement et avec confiance. » Donc ça, c'est... Dans le discernement, vous voyez, il y a un juste équilibre. Il faut poser des questions, mais des questions qui ont du poids. Marie, elle aurait pu se poser plein d'autres questions. Elle ne maîtrisait pas la chose quand elle a dit oui. Plein de choses qui lui échappaient. Mais sur le cœur du sujet, elle avait sa réponse et ça lui suffisait. Et toujours sur le discernement, c'est la dernière chose sur le discernement, c'est il y a des signes, avant même qu'on passe à l'exécution, mais... Il y a des signes qui montrent la justesse, qui viennent confirmer la justesse d'un choix. Hein, il y a la paix intérieure. Est-ce que je suis dans la paix et la joie après avoir pris cette décision, ou est-ce que je suis complètement tourmenté? Saint Ignace de Loyola parle de consolation et de désolation. Alors, je vous cite ce qui est dit. La consolation nous rapproche de Dieu, remplissant d'amour, de joie spirituelle et d'une paix profonde. Elle pousse à grandir dans la foi, l'espérance et la charité. La désolation donne une sensation de trouble, de vide ou de découragement qui éloigne de Dieu et affaiblit les vertus théologales. Ça, c'était la deuxième partie sur le discernement. J'entre dans la troisième partie. Ça devient de plus en plus court au fur et à mesure où j'avance. Ça va, c'est à peu près clair. Hein, l'ouverture, c'était la première partie. Deuxième partie, discerner. Ça, c'est vraiment la part de l'intelligence. Et troisième partie, passer à l'acte et persévérer. Comme je disais, ben voilà, c'est bien de poser des questions, mais à un moment, il faut se décider. Et Dieu ne nous extorque pas notre réponse, mais on a besoin de sortir d'une sorte d'indécision. Ah ben, je vous cite le père Lamy, notre fondateur. On rencontre dans le monde beaucoup d'âmes qui sont indécises sur leur vocation, tiraillées en tous sens, et qui ne peuvent se décider franchement à choisir leur voie pour suivre le Sauveur. Ces pauvres âmes ne cessent de s'écouter. Tantôt elles veulent ceci, puis tantôt veulent cela. Leur volonté est flottante, elles sont incapables de prendre une décision. Elles consultent tout le monde et ne veulent suivre le conseil de personne. Voilà. Alors du coup, c'est bien de prendre des conseils, c'est bien de chercher à discerner, mais à un moment, voilà, on passe dans la réalité. Hein. Il s'agit de faire la volonté de Dieu. Ça, c'est une expression qu'on retrouve beaucoup. Je vais vous reprendre quelques passages. C'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur », mais celui qui fait la volonté de mon Père. Hein. Alors, en entrant dans le monde, le Christ, ça c'est dans l'Épître aux Hébreux, le Christ dit « Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté. » Que ta volonté soit faite, c'est dans notre Père. Après, on a parlé du passage où celui qui fait la volonté de mon Père, qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Il y a aussi les deux serviteurs. Il y en a un, il lui dit « Va travailler à ma vigne ». Le premier dit « Oui, mais il n'y va pas ». Le deuxième dit « Non, mais il y va quand même ». On a les deux dans la communauté. Hein. Ça peut être une forme de tempérament aussi. Mais alors, du coup, en tout cas, ce qui est important, c'est celui qui a fait la volonté. Et c'est de passer du désir à la réalité, à la réalisation, pas rester dans l'imaginaire. Alors, François de Sales en parle beaucoup. Je vous rappelle quelques citations de François de Sales. C'est une grande pitié de voir des âmes qui, prétendant à la perfection, s'imaginent que tout consiste à faire une multitude de désirs et s'empressent beaucoup à chercher tel moyen, puis tel autre pour y parvenir, et ne sont jamais ni contentes ni tranquilles en elles-mêmes. Bref, elles s'amusent tant à parler de perfection, voulant goûter de toutes les méthodes, qu'elles oublient le principal moyen qui est de se tenir tranquille et de jeter toute leur confiance en celui qui peut donner l'accroissement à ce qu'elles ont ensemencé. Il y en a qui sont si vaillants en imagination et si lâches en l'exécution. La moindre exécution est plus utile que les désirs de choses éloignées. Donc, il insiste, allez, on passe à l'acte. Et on voit que ça peut être quelquefois un obstacle. Il y a une phrase, un dicton, ou je ne sais pas comment on peut dire, que j'aime bien. Mieux vaut un imparfait existant qu'un parfait inexistant. Du coup, autrement dit, quelquefois, il vaut mieux faire quelque chose avec plein de défauts, plutôt que d'imaginer quelque chose de parfait, mais qui s'arrête dans notre tête, quoi. Donc, voilà. Et ça, c'est bien pour les perfectionnistes de dire ça. Et là, on le voyait déjà au tout début de cet enseignement, mais il y a beaucoup de résistance en nous pour faire la volonté de Dieu. Il y a un vrai combat. Alors, ça, on n'aime pas trop, mais bon, ça fait partie de notre vie, hein, quand même. Je vous cite le Père Lamy, notre fondateur. L'amour de Dieu est le moteur principal de la vertu d'obéissance. L'obéissance est un labeur pénible à notre pauvre nature humaine, qui ne s'accomplit jamais sans effort. La sainte obéissance, nous ne pouvons la méconnaître, est de par sa nature pénitentielle, dure. Elle rencontre dès son début notre volonté contre laquelle elle se heurte et qu'il lui faut vaincre à tout prix, l'orgueil qu'il faut dompter, le jugement qu'il faut faire taire avec les concupiscences de la vie, dit l'apôtre, et toutes les passions qui se meuvent dans le fond de notre âme. Voilà, l'obéissance qui est un labeur pénible, vous êtes d'accord ? Et on voit que Marie n'est pas retenue justement pour faire la volonté de Dieu. Il y a un texte du Concile Vatican II qui le dit bien. Je vous cite, c'est dans, c'est repris dans le catéchisme, mais à l'origine c'est dans Lumen Gentium au numéro 56. Ainsi, donnant à la parole de Dieu son consentement, Marie devint mère de Jésus et épousant à plein cœur, sans que nul péché ne la retienne, la volonté divine de salut, se livra elle-même intégralement à la personne et à l'œuvre de son Fils pour servir dans sa dépendance et avec lui, par la grâce de Dieu, au mystère de la rédemption. Et finalement, donc, pour faire la volonté de Dieu, c'est, vous vous rappelez cette Marie, ce qu'elle dit, « qu'il me soit fait ». Hein, c'est que Dieu fasse en moi quelque part. C'est, et donc elle s'abandonne. Et saint François de Sales va dans le même sens. Vous vous rappelez peut-être un petit peu l'itinéraire de saint François de Sales. Au début, justement, il est passé par des moments très très difficiles où il pensait être damné et tout ça. Et il en est sorti en faisant confiance à Dieu. C'est ce qu'il disait quand il avait 19 ans. Quoi qu'il advienne, Seigneur, je t'aimerai. Et j'espérerai toujours dans ta miséricorde et je répéterai toujours tes louanges. Et alors ça, c'est ce qu'il a vraiment accompagné toute sa vie, cet abandon entre les mains de Dieu. Et voilà. Faire la volonté de Dieu, pas seulement au point de départ, mais aussi aller jusqu'au bout. Alors, en guise de conclusion, je reviens un petit peu sur Marie, dans le récit de l'Annonciation, et je terminerai par là. Pour faire la volonté de Dieu, Marie ne s'est pas laissée arrêter par la peur, parce que quelquefois, on peut avoir quelques appréhensions. Alors c'est Raniero Cantala Message, je vous le cite. Je trouve assez beau ce qu'il dit. Marie, elle n'est pas folle. Elle se dit, mais elle savait bien quand elle répondait oui, mais comment les gens vont me regarder? J'attends un bébé et je vais... Alors, parce que les ragots, ça va... Bon. Et puis, c'est Carlo Caretto qui raconte qu'un jour, il avait visité c'était dans le Sahara, je crois, il avait visité des familles, et puis il y a une jeune femme qui est, toute jeune femme, hein, je sais pas, 15 ans, qui était promise en mariage, et voilà, et, donc il s'en réjouit et il repasse 2 ans après et puis il la voit pas. Alors il demande qu'est-ce qui est arrivé ou je sais pas. Il demande des nouvelles en tout cas. Et il y en a un qui le prend à part et puis qui le fait parce qu'elle était pas vierge avant son mariage. Et du coup c'était le déshonneur pour toute la famille. Mais Marie connaissait bien la parole de Dieu aussi. Et la parole de Dieu dans le Deutéronome. Si la jeune femme, au moment des noces, n'était pas trouvée vierge, elle devait être amenée à la porte de la maison de son père et lapidée par les hommes de la ville. Ça, c'était un commandement qui était fait. Marie, on voit que c'est... Nous, bon, ça nous paraît tout naturel. Elle dit oui, et puis voilà, c'est très beau. Mais en même temps, Marie, elle n'est pas folle. Elle sait que ouais, y a un risque. Mais bon, donc, juste pour dire que Marie ne s'est pas laissée arrêter par la peur. Hein, et c'est... Il y avait des peurs bien réelles qu'elle aurait pu avoir, Marie. Hein, mais elle a décidé de faire confiance à Dieu. Une fois qu'elle a compris que c'était vraiment Dieu qui lui demandait, elle s'est dit, ben voilà, Dieu pourvoira, hein, un peu comme avec Abraham et Isaac, hein, vous vous rappelez du passage, qui est assez touchant. Et puis du coup, elle s'abandonne. Elle a suffisamment d'éléments avec ce que lui dit l'ange, et puis elle va... Mais encore une fois, elle ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants. Elle se rend disponible entre les mains de Dieu. Elle ne cherche pas à tout maîtriser. Et là, elle respecte aussi Dieu qui est plus grand qu'elle. Et puis, dans sa réponse à Marie... Elle ne traîne pas les pieds. Dans ce fiat, alors il y a un mot grec aussi qui est, c'est l'optatif. Je n'y connais rien, je répète ce que j'ai lu. Et du coup, il y a un accent de joie et d'empressement dans ce... Ce n'est pas quelqu'un, bon, allez, j'y vais quand même. Mais au contraire, non, elle y va volontiers. C'est l'obéissance empressée, ce n'est pas une obéissance contrainte et forcée. Donc, voilà. Alors donc, Marie nous est vraiment ce modèle pour accueillir la volonté de Dieu et l'accomplir. Donc, il y a tout cet arrière-fond, après il y a le discernement, et puis après c'est passé à l'acte.